Bonjour et bienvenue dans le podcast Journal d'une curieuse créative. Je suis Chloé, éleveuse de chèvres angora, de brebis limousines et fondatrice de l'atelier Fibre Laine. Je suis avide d'apprendre, de créer et de partager mes découvertes avec vous. Ce podcast est là pour vous inspirer à vivre la vie que vous voulez vraiment. Je vous emmène chaque mois dans ma vie paysanne et créative. Revenir à l'essentiel pour vivre une vie authentique. Donc nous sommes au mois de mai 2018 et dans cet épisode vous pouvez retrouver les segments habituels, donc à la ferme où je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ce mois-ci, l'atelier fibre laine où je vous parle de mes projets, tricot, crochet et créations en tout genre, mes lectures du mois. Avec ce mois-ci, deux livres que j'ai beaucoup, beaucoup aimés et un autre qui ne m'a pas plu et dont je vais l'évoquer un petit peu. Et dans le segment curiosité, on va continuer notre histoire du tricot. On s'était arrêté au 16e siècle, donc on va reprendre là et puis continuer jusqu'à nos jours. À la ferme. Alors ça a été un mois qui est passé très vite, c'est vrai qu'avec la fin des mises bas, beaucoup de travail au maraîchage, le temps passe vite, on prépare la saison des foins, et c'est vrai qu'à cette période c'est un petit peu l'effervescence et le temps semble se rétrécir. Alors, le 1er mai, il y a eu un grand jour à la ferme et dans notre petite vie de paysan, on a fait pour la première fois de notre vie d'adulte en couple la jonction entre les patates de conservation et les patates nouvelles. Alors, c'était vraiment une super journée parce que le midi, on a donc mangé nos dernières patates de conservation. Et le soir, on est allé arracher quelques petites patates nouvelles. Et elles avaient un goût si spécial parce que ça faisait plusieurs années qu'on essayait, mais on n'y arrivait pas vraiment. Il y avait toujours un trou justement entre les patates qu'on avait récoltées à l'automne et les premières pommes de terre nouvelles. Et là, le 1er mai 2018, c'était un peu ce jour spécial où on était fiers de notre travail et de déguster ces pommes de terre. Donc ça, c'était assez sympa et ça donne un goût un petit peu spécial aux aliments et ça, le soir, on a fait un repas très agréable. Donc au maraîchage, on a aussi repiqué 400 courges. Donc ça, c'est pareil, ça va pousser assez vite. Les courges, c'est assez impressionnant, ça développe un feuillage très rapidement. Et puis on voit les petits fruits qui commencent à apparaître et puis il faut attendre l'automne que tout ça mûrisse pour être récolté et conservé. En parlant de premier aliment un petit peu au sortir de l'hiver, on a mangé aussi nos premières courgettes de la serre, donc ça c'était très agréable. Et il y a également, ah oui, au dernier épisode je vous avais parlé du fait que j'avais pas vraiment la main verte et que le végétal c'était pas vraiment mon truc, mais depuis que j'ai sous ma responsabilité un rang entier de framboisiers, je me suis lancée dans d'autres plantations. Alors les framboisiers, je m'en suis très bien occupée, je les ai binés, désherbés deux fois déjà, avec le temps ensoleillé, chaud et en même temps les pluies régulières. C'est vrai que tout pousse très vite, les herbes que l'on souhaite et puis les herbes un peu plus folles qu'on souhaite pas forcément. Donc j'ai désherbé mes framboisiers. Et puis on a fait la tonte, donc j'ai pu mettre un petit peu de laine, pardon, sur les framboisiers. Et puis je vais mettre aussi également, on a des restes de bottes de paille. Je vais mettre un petit peu de paille. Donc voilà, ça c'était un petit peu ma peur, disons, de les planter et les délaisser. Mais non. Et j'ai aussi semé des fleurs autour de la maison. On avait des petits parterres qui étaient plutôt sauvages, disons. Il y avait des orties, de la calidoine, ce genre de choses. Qui, ma foi, sont des plantes très jolies. Mais je voulais semer des fleurs pour faire un parterre un peu fleuri avec des couleurs différentes. Donc j'ai fait trois parterres différents. Hugo a consenti à me donner un sac de terreau. J'ai mis un sac de terreau et j'ai semé voilà, des petites fleurs des champs, du lupin, capucineyer, voilà, ce genre de choses. Donc ça a bien pris. J'arrose régulièrement, je suis très fière de moi. Et quoi que ça fait un moment que j'ai pas arrosé, mais c'était début mai. Et voilà. Alors aussi, il y a 2 semaines, il y a la dernière chevrette qui est née à la ferme. Donc elle s'appelle... zut, j'ai oublié. Ah oui, Oula, pardon. Elle s'appelle Oula. Et c'est marrant parce que c'est une de mes chèvres qui a 10 ans déjà qui a fait cette petite. Et elle était toute crevette, crevette. Et je pensais qu'il y en avait deux, à vrai dire, au début. Et finalement non, il n'y en avait qu'une. Mais elle est très... J'avais un petit peu peur qu'elle soit faible. Et en fait, pas du tout. Elle est très dynamique, très jolie. Elle a la peau toute rose, des petites boucles de mohair toutes blanches. Enfin voilà. Donc on en est à 18 chevreaux cette année. Et aussi, ce mois-ci, il y a eu la tonte des moutons. On l'a fait... Je crois que c'était tout début mai. Ouais. Donc on a tondu toutes les brebis et les béliers. Et j'ai vu passer quelques jolis toisons que je me suis réservés pour mon usage personnel. Et voilà. Donc voilà pour ce mois à la ferme. Ah oui, et il y a aussi les acacias qui ont été en fleurs. Et on en a pas mal autour de chez nous. Et c'est vrai que certains jours, ça sentait extrêmement bon. Quand il faisait un petit peu lourd, chaud, avec une petite brise. Oh, c'était merveilleux. Et les arbres étaient blancs, blancs de fleurs. Enfin, on a fait des crêpes aux fleurs d'acacia. Et c'est un petit délice, c'est un petit goût sucré. Enfin, voilà. Et les chèvres aussi, il y a certaines branches qui, avec le poids des fleurs et la pluie donc qui les a gorgées d'eau, ça a fait fléchir quelques branches. Et les chèvres adorent ça en fait. Et c'est marrant parce qu'on retrouve des pétales de fleurs d'acacia dans leur toison en ce moment. L'atelier Fibrolaine. Alors, il y a eu des grands, grands changements et des grandes nouveautés du côté professionnel et des petites créations du côté personnel. Alors, je vous parlais de ma redécouverte du crochet dans le dernier épisode. Mon intérêt pour cet outil et cet art textile a continué. Et après avoir fait les châles, j'ai continué, enfin j'ai commencé un petit mouton. Donc c'est un patron de Lali Lala. Et c'est un petit mouton qui doit faire 30 cm de haut. Et en fait, je le tricote avec une laine d'alpaga qui vient des Pyrénées. Donc c'est un fil assez fin de brun qui est dans les coloris naturels des toisons d'Alpaga. Donc j'avais deux pelotes écrues, deux pelotes grises et une pelote plutôt marron. Donc je suis en train de faire ce petit mouton en crochet. J'ai également participé, enfin je participe également à mon premier cal, crochette longue, et je réalise une petite couverture pour bébé au crochet. Donc c'est le Tropitil cal de Mijo Crochet. Vous pouvez retrouver les liens de ce que je cite dans l'article de blog ou sur la page dédiée à cet épisode. Je vous donnerai les liens en fin d'épisode. Donc ça, ce cal, c'est mon premier. Et j'avoue que j'étais un petit peu... J'étais pas très sûre de moi quant au fait de tenir les délais. Et en fait, j'y arrive assez bien. Voilà, tous les soirs, je fais quelques rangs. Et donc ça avance bien. Là, il y a la partie 5 qui est sortie donc ce vendredi dernier, le 25 mai. Et il y aura encore une partie à sortir. Donc c'est une jolie petite couverture avec des points très jolis texturés. Et l'idée était de faire un dégradé d'une couleur au centre d'un carré avec un motif un petit peu en fleurs. D'avoir une couleur de base autour de ce carré et puis de refaire le dégradé dans une autre couleur. J'ai mis des photos sur mon compte Instagram si vous voulez voir le résultat. Donc ça c'est très agréable et j'aime beaucoup le rendu. Donc je la tricote c'est avec un crochet 4 mm et j'ai utilisé la laine de chips. Je ne sais pas vraiment comment on le prononce, qui s'appelle Stonewashed. Et en fait, c'est une laine très jolie qui a une base claire. Et voilà, ça fait un petit peu enfin, une couleur un peu usée, délavée. Et c'est très très joli. Voilà pour le crochet. Ah non, il y a encore un petit truc. Alors, c'est pas vraiment une réalisation, mais quand je me suis intéressée au crochet. Moi, j'avais déjà une petite collection de crochets. J'avais commencé avec des premiers crochets que j'avais achetés très peu cher. Et puis, j'avais regardé un petit peu plus. Et puis, j'avais racheté des kits, notamment Clover et Tulip. Et c'est vrai que le manche ergonomique, je trouve ça beaucoup plus confortable et j'arrive à crocheter plus longtemps qu'avec seulement un crochet en aluminium assez fin. Ma main se crispe et c'est vrai que je fatigue plus vite. Et donc en regardant un petit peu, j'ai décidé d'essayer de me faire moi-même mes crochets, du moins le manche ergonomique. Et j'ai trouvé des liens, notamment sur Etsy, de personnes qui faisaient déjà ça de manière professionnelle. Et j'ai décidé d'améliorer tous mes vieux crochets un petit peu tout simple. Et donc j'ai ressorti un pain de pâte Fimo tout sec. que j'avais depuis le lycée, je pense, ou je sais plus quand je faisais ça, enfin bref. Et bon, c'était pas suffisant, donc j'étais en acheter de la neuve et j'ai essayé ça. Donc je me suis fait plusieurs manches, j'ai essayé plusieurs techniques et j'ai notamment utilisé une technique qui se rapproche un petit peu des peintures de Klimt, un peintre hollandais. Et donc c'est des petits carrés à coller et je trouve que ça fait très joli. Donc le premier que j'ai fait était raté. je sais pas, le manche était un peu tordu, j'avais pas dû assez préparer, conditionner ma pâte polymère. Et c'est vrai que c'était. Puis j'avais fait le manche trop gros. Donc c'était pas très agréable. Mais j'ai persévéré et j'ai continué. Et donc j'ai fait tout un kit, disons, de crochet du 2 mm au 7 mm avec différents manches, différentes, pardon, formes de manches pour voir ce qui me plaisait le plus et ce qui était le plus agréable à mes mains. Donc voilà, et avec mes petits restes de pâte polymère, j'ai fait des petits colliers pour la fête des mères. Voilà, donc c'est un matériel que je découvre, que je redécouvre et qui me plaît bien et j'espère continuer à faire des petites choses en pâte polymère. Alors, la grande nouvelle. Alors j'avais j'ai une pièce dans ma maison où il y a mes machines à tricoter, enfin mon atelier laine, disons, transformation. Et je faisais la teinture de mes laines dans la cuisine, enfin dans la cuisine familiale, quoi. Et depuis une semaine maintenant, ou deux, enfin une semaine, ouais. J'ai déménagé tous mes outils de préparation de la laine, teinture, tout ce qui concerne l'expédition des commandes, le stock, dans un nouvel endroit. Et c'est un nouvel espace. C'est un ancien local qui servait à des chasseurs qui n'en avaient plus besoin et dont j'ai investi les lieux. Et j'en suis ravie parce que c'est spacieux, c'est assez rustique, voilà, c'est dans son jus comme on dit, mais tout est sur place, j'ai l'eau, l'électricité, mes marmites de teinture peuvent rester en place, je peux préparer mes bains de teinture, il y a le séchage également, je vais bientôt installer un petit poêle pour être plus au chaud cet hiver. Et voilà, donc c'est un petit peu l'atelier dont, du moins l'espace dont j'avais besoin et envie pour travailler ma laine. Donc ça, c'est super. Et l'autre grande nouvelle, c'est que je vais faire entrer dans la boutique donc de l'atelier Fibre Laine une nouvelle qualité de fil. J'ai fait transformer avec une autre éleveuse, on a rassemblé le mohair de nos deux troupeaux de chèvres pour faire un fil lisse, un fil de brin à chaussettes. Et qu'on a mélangé pour moitié, donc c'est 50% mohair de chevreau, 50% mérinos extra fin, qu'on a fait transformer en creuse, donc à la filature terrade. Et bon, ça faisait très longtemps qu'on travaillait sur ce projet, et puis bon, la vie fait que c'est assez long de mettre en place ce projet, et. Elle a eu des. Enfin, l'autre éleveuse a eu des ennuis dans sa famille. Enfin bref. Voilà. Mais ce fil, on est allé le chercher à la filature il y a peut-être un mois maintenant. Et Thierry a fait un super boulot. Il est. Voilà, c'est vraiment un fil. Moi, je le découvre un petit. Enfin, je le découvre. On avait fait des tests et des échantillons, mais c'est vrai que. De le travailler autant à la main, en tricot à la main, en crochet, que ce soit sur mes machines, la machine circulaire, c'est vraiment un bonheur. Donc là, il a pris sa place dans le nouvel atelier. Il est à la mise en écheveau. Je fais des écheveaux pour réaliser les teintures par la suite. C'est vraiment un fil qui me plaît. Et je suis contente que ce projet ait abouti. Voilà. Voilà pour les petites créations de l'atelier Fibre Laine. Lecture. Alors, ce mois-ci, j'ai pas mal lu et j'ai commencé une saga qui s'appelle Outlander de Diana Gabaldon. Donc, le tome 1, c'est le chardon et le tartan. Et je vous en parle en premier parce que c'est un livre que j'ai pas du tout aimé. Mais bon, je l'ai quand même fini. Donc je vais vous raconter peut-être le résumé. Ancienne infirmière de l'armée britannique, Claire Beauchamp Randall passe des vacances tranquilles en Écosse où elle s'efforce d'oublier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari. Au cours d'une promenade sur la lande, elle est attirée par des cérémonies étranges qui se déroulent près d'un menhir. Elle s'en approche et c'est alors que l'incroyable survient. La jeune femme est précipitée 200 ans en arrière dans un monde en plein bouleversement, en 1743. L'Écosse traverse alors une période troublée. Les Highlanders fomentent un nouveau soulèvement contre l'occupant anglais et préparent la venue de Bonnie Prince Charlie, le prétendant au trône. Plongée dans un monde de violence et d'intrigues politiques qui la dépassent, Claire ne devra compter que sur elle-même pour surmonter les multiples épreuves qui jalonnent ce formidable voyage dans le temps. Voilà, donc un roman un petit peu sur le monde sauvage et baroque du 18e siècle écossais. Et ça mêle un petit peu le fantastique, l'historique, la fiction et l'humour. Alors je l'ai fini, mais voilà, j'ai pas trop aimé. Bon, déjà c'est raconté au passé et c'est le narrateur, c'est Claire Beauchamp. Et je sais pas, j'ai trouvé ça assez lourd, j'ai trouvé l'histoire assez longue avec des péripéties assez peu réalistes. Bon, à part ce voyage dans le temps, c'est assez, enfin tout le reste paraît vrai, mais j'ai trouvé ça très très lourd à lire et assez invraisemblable. Voilà. Donc voilà, ce premier livre que j'ai lu fini et je ne lirai pas la suite parce que ça ne m'a pas beaucoup plu. Alors, le deuxième livre par contre que j'ai lu et qui m'a énormément plu, c'est Au petit bonheur la chance de Aurélie Valogne. Donc c'est un livre qui se lit assez vite et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas ri et pleuré sur un roman et ce livre m'a fait bouleverser, m'a fait éclater de rire, enfin. Voilà, il y a tout et dans une écriture simple, fraîche. Voilà, en deux phrases, le contexte est posé. Enfin, c'est vraiment des livres que j'adore. Je vous lis juste le résumé. Parce que derrière chaque imprévu de la vie se cache une chance d'être heureux. 1968. Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été, pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a une étape différente sur le chemin de la vie. Elle a tout vu, elle s'étonne, il s'étonne de tout. Jean et Lucette vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Alors voilà pour le résumé et ouais, c'est vraiment vraiment un coup de cœur. Ça se lit très vite, les pages défilent à toute allure. Jean, le personnage, est très attachant, Mémé Lucette aussi. L'époque 1968 est très intéressante. Et voilà, ça parle un petit peu aussi des familles brisées, des femmes et de leurs conditions. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, vraiment à lire. Ma belle-mère m'a passé un autre de ses romans, je crois que c'est Mémé dans les orties. Donc dès que j'ai fini mes autres romans, je passe à ce livre. Et voilà, je voulais vous parler aussi d'un autre livre qui qu'une amie m'a passé parce que, enfin, une amie, une connaissance d'une amie m'a passé parce que le titre faisait référence à Helga et c'est le nom de notre fille. Donc c'est un roman de Bergsvein Birgisson. C'est un roman islandais et ça s'appelle La lettre à Helga. Alors c'est pareil, c'est un petit bijou qui se lit certainement en 2-3 heures, enfin très rapide. Et c'est l'histoire d'un homme, d'un éleveur de moutons islandais qui écrit une lettre à son grand amour avec lequel il n'a jamais pu vivre, disons en plein jour aux yeux de tous. Et c'est un livre très cru. Direct et il y a des descriptions de paysages, de vie islandaise, de vie rude et âpre de paysans islandais et ça m'a énormément plu. Donc je vous le conseille parce que c'est une histoire d'amour un petit peu à contre-temps et l'écriture est vraiment poignante aussi. C'est voilà, c'est un monsieur qui un vieux monsieur peut-être à la fin de sa vie qui écrit la lettre à son amour de jeunesse et tout ce qu'il n'a jamais pu lui dire. Enfin voilà, donc c'est La lettre à Helga de Bergsvein Birgisson. Voilà pour mes lectures de ce mois. Curiosité. Donc dans ce segment, je vais continuer un petit peu l'histoire du tricot et vous lire les notes que j'ai prises suivant mes différentes recherches. Et donc on s'était arrêté vers le 16e siècle, je crois. Donc là, on va reprendre à cette époque et on va voir que le tricot devient une activité féminine, une occupation féminine convenable. Donc, à partir du 16e, 17e, le tricot à la main est très à la mode et il devient une occupation convenable des femmes de l'aristocratie. Donc, Marie-Antoinette, qui joue à la bergère, tricote également et elle fera chercher aux Tuileries par la fille de son geôlier. Des aiguilles à tricoter en ivoire et il y a des paires qui sont vendues 30 000 euros la paire. Donc c'est assez incroyable. Et le raffinement des accessoires de tricot, des sacs à ouvrage sont faits en soie et ça reflète un petit peu le statut social de la dame en fait qui les possède. Donc quand on commence à se préoccuper un petit peu de l'éducation des filles, on les pousse naturellement vers des travaux d'aiguille qui... Donc tout ça c'est à mettre entre guillemets, c'est suivant les recherches, qui conviennent mieux, disons, à leur fragilité physique. Donc c'est dans les pensionnats et les couvents, en fait, ces apprentissages varient selon que la jeune fille soit bien née ou qu'elle doive gagner sa vie honnêtement. Pour la première jeune fille bien née, c'est surtout de se constituer un trousseau et d'occuper un petit peu son temps libre et de lui éviter de mauvaises lectures. Et pour la seconde qui devra gagner, disons, sa vie, c'est un petit peu un enseignement qui va lui permettre de trouver un travail dans la demande de la mode en plein essor pour des petites mains habiles. Donc le tricot est naturellement, enfin traditionnellement dévolu aux femmes qu'elles exercent en privé dans l'intimité de leur foyer Et c'était vraiment... ça devait se faire un petit peu... pas en public, en tout cas, au début. Voilà, donc on voit... Il y a assez de... Il y a des tableaux de l'époque où on voit justement ces dames tricoter en groupe pour faire des ouvrages. Et puis le tricot, c'est vrai que c'est assez... voilà, on peut l'interrompre et le reprendre à tout moment. Et c'est pour ça que les femmes, quand... qui ont du temps libre et qui ne doivent pas le gaspiller, peuvent faire ces petits ouvrages à leur temps perdu. Et ça a été largement, le tricot a été largement enseigné dans les institutions et les écoles religieuses, mais aussi laïques, pendant le 19e siècle. Et il y a notamment une phrase de Gaulle en 1948 qui accorde enfin le droit de vote aux femmes françaises. Et quand on lui pose la question « Allez-vous en prendre au gouvernement ?», il répond « Oui, à un sous-secrétariat d'État au tricot ». Voilà. D'un côté, c'est une valorisation du tricot. Bon, de l'autre, vous en pensez ce que vous voulez. Vers 1830, il y a les premiers ouvrages de modèles de tricot qui apparaissent. Et avec la broderie, c'est une des activités principales des institutions de charité, des hôpitaux, des prisons. Et on y tricote principalement des bas et des vêtements pour enfants. Donc le premier recueil de modèles a été publié en Angleterre, Instructions on Needlework and Knitting. C'était destiné à l'apprentissage du tricot dans les écoles de l'église anglicane et c'était ça en 1838. Donc c'est sûrement l'ancêtre de nos recueils de modèles quoi. C'est assez c'est marrant. Et donc ces recueils ont beaucoup beaucoup circulé dans de nombreuses institutions de l'Europe occidentale quoi. Et après, chaque tricoteuse a un petit peu sa patte et sa création, et elles se font leur propre recueil d'échantillons, des répertoires de points, de motifs, qui n'existent pas dans les manuels et les modèles de cri, quoi. Et c'est intéressant de voir ça. Il y a notamment des pages d'un livre d'une dame qui a fait un petit livre d'échantillons sur des pages en tissu. Et donc ça se trouve au muséum de Victoria et Albert à Londres. Donc voilà, il y a beaucoup d'ouvrages à réaliser soi-même également en Allemagne. Et en France, c'est surtout des publications de mode qui se développent sous la Restauration, comme dans par exemple le journal des Demoiselles, ça s'appelle. Donc au début du 19e, en fait, ce qui s'est beaucoup développé, c'est les bourses et les réticules qui font fureur dans la mode. Donc c'est des petits sacs, c'est des petites poches nouées autour de la taille et qui se portent sous les paniers et dans l'Ancien Régime, quoi. Alors un autre succès plus tardif, pardon, c'est les bourses à deux coulants, ça s'appelle, et cette mode prend son origine dans la coutume médiévale de conserver ces pièces d'or dans une chaussette. Donc au 19e, en fait, les hommes et les femmes suspendaient ces bourses à leur ceinture. Alors les premières traces de laine colorée et teinte chimiquement apparaissent en 1850. Ça offre aux tricoteuses du Second Empire un choix assez large en couleurs vives et chatoyantes. Le rouge est très très présent.
À partir des années 1850, les hommes de science et les hygiénistes de la fin du 19e, dans un esprit de réforme de la mode qui touche notamment les pays anglo-saxons, préconisent de porter des tissus bruts sans fibres végétales à même le corps. Et ils redécouvrent à cette époque les vertus de la laine. Le docteur Gustav Jaeger de l'université de Stuttgart publie en 1878 un ouvrage qui décrit tous les avantages des sous-vêtements en laine. Et la même année, en Angleterre, il a été créé une société, disons, enfin un système qui propose des lainages sanitaires. Et c'est en 1877 que le docteur Razurel en France invente un mélange de laine et de ouate de tourbe qui est un petit peu qui préfigure un peu les tissus de damar thermolactiles, qui eux ne seront inventés que vers 1950. Marcel Proust, notamment, en porte. L'armée française en fournira à ses soldats dans les tranchées. Enfin, ça se répand, quoi. Et donc, dans toute l'Europe, on recommande de porter des lainages dits sanitaires sous les vêtements, jupons et pantalons pour les femmes et gilets pour les hommes. Tout cela, en fait, contribue à cette époque à mettre un petit peu la laine à la mode. Donc, les dessous sont le plus souvent achetés, mais il y a aussi une tradition de les tricoter soi-même, et les journaux fournissent toutes sortes de modèles dans leurs pages. Donc c'est à partir de cette époque qu'on commence à voir pas mal de tableaux de dames qui tricotent, et la tricoteuse en fait représente parfaitement les enjeux et les conventions de la vie quotidienne des femmes et des jeunes filles de cette époque. Qu'elles soient riches ou pauvres, jeunes ou âgées, le tricot en fait est une manière de révéler leurs devoirs et leur qualité de femme douce et attentive à leur foyer, de maîtresse de maison efficace, de chrétienne humble et travailleuse, soucieuse de l'économie de leur foyer. Enfin, voilà, tout ça porte des valeurs un petit peu de féminité idéale, de mère attentive, de fillette obéissante. Grand-mère respectée, voilà, on voit des jolies bergères avec leurs troupeaux et qui ont un tricot dans leur panier. Voilà, donc c'est un peu l'image idyllique du temps perdu dans un décor pastoral. C'est devenu un petit peu une icône, et à travers les innombrables représentations de la tricoteuse ou la leçon de tricot, on a jusqu'à la disons la Première Guerre mondiale, une vision, cette vision un petit peu et cette pratique du tricot. Donc après, voilà, au 20e, à partir de 1900, 1930, donc au 20e siècle, on passe des dessous dits hygiéniques sanitaires aux vêtements un petit peu des années folles, plus ce qu'on appelle sportswear. Donc, dans la lignée des lainages hygiéniques utilisés pour les vêtements de dessous, puis après pour les tenues de sport, en fait, la mode des vêtements en tricot se développe beaucoup au début du 20e. Donc on voit beaucoup d'accessoires, des bonnets, des écharpes, des pulls, des chaussettes de laine pour pratiquer les sports de plein air, le patinage, la luge, le ski, le hockey, tout ça. Et les autres saisons, on porte un petit peu des sweats élégants et confortables. Et notamment, sweat, ça vient de l'anglais to sweat, transpirer. Sweatshirts, sweaters, voilà. Donc ça s'est développé dans énormément de milieux, la chasse, la campagne, la plage, enfin voilà. Et celle que l'on considère un petit peu comme une pionnière du vêtement du tricot, c'est Gabrielle Chanel. Donc en 1913, elle ouvre sa boutique à Deauville. En 1916, elle rachète un stock de jersey qui était destiné pour la bonneterie. En fait, elle fait des modèles de tailleurs à veste trois quarts, des jupes raccourcies, des marinières. Voilà, elle apprécie la souplesse, la douceur et le confort du tricot, des lainages. Donc c'est dans les années 20 qu'il se développe un petit peu un style de vie qui se veut libre, pratique et qui exige un peu qu'on ait l'air sportif. Et c'est là qu'on voit le triomphe de la maille, notamment. Donc il y a eu pendant la guerre, en fait, disons, un tel engouement pour les tenues en maille et leurs avantages, qui avaient été relayés par des couturiers renommés, que le tricot domestique, depuis la Première Guerre mondiale, s'est répandu, disons, dans toutes les couches de la société. Et pendant la guerre, les femmes, les enfants et même les soldats blessés qui étaient immobilisés, tout le monde tricote, disons, de manière patriotique. C'est pendant ces périodes notamment qu'a été développée la machine à tricoter circulaire. Il a été tricoté, donc, de manière, enfin, patriotiquement, des chaussettes, des mitaines, des genouillères, des bonnets, des écharpes, pour les soldats notamment qui étaient au front et dans des conditions très difficiles. et les dames de la haute société qu'on aperçoit dans les rubriques mondaines des journaux deviennent infirmières et elles passent leur temps à tricoter partout, dans les trains, au théâtre, au restaurant, à la maison, dans les écoles. C'est plus une activité cantonnée au foyer et à l'intimité du domicile. Et on les représente beaucoup avec un tricot à la main, même dans des présentations de mode, des maisons de couture. Et il y a vraiment eu des pièces tricotées en grand nombre, parce qu'on dit que les soldats recevaient tellement d'articles tricotés qu'ils ne pouvaient pas tout utiliser. Ils s'en servaient également pour astiquer leurs armes. Bon, ça, c'est une petite anecdote, peut-être à vérifier. Donc ça devient un petit peu une habitude, et après la guerre, le tricot devient, disons, un loisir, même s'il reste dans les familles, une manière économique de s'habiller, une manière confortable et aussi originale de s'habiller, de créer ses propres vêtements. Et les magazines de mode continuent, comme au 19e siècle, à proposer des modèles de tricot à réaliser soi-même. Aujourd'hui, c'est vrai que la majorité du tricot est du moins à la main et reste un loisir, et je pense vraiment un loisir et pas forcément dans un but disons économique, ou enfin voilà, on sait très bien qu'on peut avoir un pull en maille à très peu cher. À partir des années 1950, il y a un petit peu une sophistication de la maille. C'est les femmes portent des guêpières qui font un petit peu corset, et donc les modèles de tricot s'adaptent un petit peu à ce changement radical d'idéal esthétique. Et il y a de nouveaux modèles qui apparaissent. Et puis avec l'apparition des magazines en couleur, en fait, c'est vrai qu'il y a une profusion de petits accessoires, des foulards, des étoles, des chapeaux, qui se retrouvent aussi dans le tricot ou le crochet à cette époque. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'éternel retour du tricot ? Je pense que oui. La maille s'est vraiment installée dans les collections, même haut de gamme, et elle inspire toujours les créateurs les plus avant-gardistes. Il y en a qui en ont fait une spécialité, comme Azzedine Alaïa, qui a profité des nouveautés technologiques comme le lycra pour porter un petit peu le corps vraiment dans sa féminité. Et à travers le fait main, comme au début du siècle, le tricot parvient à incarner le luxe, et il nourrit un peu les créateurs de faits historiques. Il y a une histoire derrière ce matériel, ce tissu, quoi. Le tricot est par essence créatif et techniquement inépuisable. Vous pouvez créer une association de points, de couleurs, de textures. Alors parallèlement à ça, les activités ménagères et l'économie domestique ne sont plus enseignées à l'école. On n'y apprend plus ni à coudre ni à tricoter. Le tricot, c'est devenu un petit peu une affaire privée qui se transmet dans les familles de génération en génération ou entre copines. C'est vrai que les magazines de tricot s'adressent soit aux débutants, soit sont des répertoires de points. Alors, ni l'augmentation du coût de la pelote de laine, ni la baisse du prix des articles de confection industrielle, ni l'extension du travail féminin n'entame la popularité de l'activité tricot-main, qui revient régulièrement par vague à la mode. Je pense que dans ce monde un petit peu globalisé, standardisé et de marchandisation à outrance, ça contribue à produire un travail qui a une valeur, un sens et une certaine originalité. Et la valeur vient du fait qu'on prend du temps à faire ses ouvrages, faire soi-même, parfois pour l'offrir. Et c'est un objet unique dont souvent on requiert une certaine fierté. En 1980, le tricot est un peu redevenu tendance, et puis ça s'est de nouveau un petit peu oublié. Mais il y a toujours quand même des sites, des collectifs qui se créent autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un renouveau, particulièrement dans le tricot et généralement dans le fait main, la création et voilà, l'objet qu'on a pris du temps pour soi, du temps plaisir à faire et qui va rester dans nos garde-robes, sur nos porte-manteaux, longtemps comme un objet utile, beau et avec une histoire. Voilà pour l'histoire du tricot. Donc depuis toujours en fait ça a été ça a habillé les enfants et puis ça a été de nombreux accessoires. Aujourd'hui ça continue aussi, c'est vrai que on fait toujours ou une petite couverture pour bébé, un bonnet, enfin voilà, la layette est quand même très 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 présente et reste toujours très présente. Voilà pour cette histoire du tricot. J'espère que ça vous intéresse autant que ça m'intéresse. Et j'espère que ça vous intéressera à découvrir un peu l'histoire de cet art textile. Et j'espère pouvoir vous faire d'autres petits résumés comme ça, d'autres recherches sur ces sujets qui me passionnent, les arts textiles et précisément la place que ça a eu pour les femmes et le travail des femmes pour les fibres. Donc c'est terminé pour cet épisode où je vous racontais le mois de mai 2018. J'espère que vous avez été intéressés par les sujets. Alors vous pouvez retrouver les liens, les références que j'ai citées dans cet épisode sur la page, sur le blog de l'atelier Fibrelaine à la page de cet article. Ou alors sur la page internet de ce podcast. Donc le site internet c'est www.lateliefibrelaine.com / blog. Et le site pour aller directement au podcast, vous pouvez taper journal d'une curieuse créative.libsyn. .com et vous trouverez donc cet épisode ainsi que les deux autres, les deux précédents. Voilà. J'espère que votre mois de mai a été riche et intéressant. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour vous raconter le mois de juin à la ferme. Et tout ce qui s'est passé sur mes aiguilles, mes crochets, dans l'atelier. Et surtout, restez curieux!